Vous écoutez Radio Campus Lille 106,6 FM, campuslille.com et en DAB+ sur la métropole lilloise et encore sur l'Artois. J'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Postel, donc qui est universitaire. On va peut-être lui demander d'ailleurs de se présenter de manière un peu complète pour qu'on ait les bases de notre dialogue ensuite et comprendre la logique autour d'un thème qui va nous animer sur entreprise et démocratie. Alors ça paraît un peu contradictoire, mais on reviendra sur tout ça. Voilà, donc bienvenue tout d'abord.
Merci de m'accueillir.
Donc un peu votre parcours et...
Donc je suis économiste à l'université de Lille qui a la caractéristique d'accueillir un labo qui relie économie et sociologie, qui met l'économie dans les sciences sociales au service, je dirais, des questions écologiques et sociales et non pas en position de surplomb, ce qu'on peut appeler des socio-économistes, des économistes hétérodoxes, des économistes institutionnalistes, économistes critiques. Une spécificité de l'université de Lille et depuis cette position, je m'intéresse aux mutations du capitalisme, en particulier en regardant où se situent les lignes de force, des tensions politiques, des changements écologiques et sociaux. Et je considère qu'un de ces lieux, assez peu étudié par l'économie, au fond, c'est les lieux de production et c'est l'entreprise.
Alors, c'est vrai qu'il y a eu à Sciences Po une rencontre sur le thème... Alors, il y avait un rapport, tout d'abord, qui avait été présenté sur deux promesses à ceux qui travaillent. Peut-être qu'on peut démarrer par ça. Est-ce que, justement, les promesses qui sont faites à ceux qui travaillent ne les ont pas toujours trahies ?
La question des promesses et de la trahison des promesses, c'est quelque chose qui nous emmènerait loin. Ce qui semble important... dans ce rapport, c'est que c'est un rapport qui, dans un contexte de backlash écologique, social et démocratique, on a quand même le sentiment que l'univers dans lequel on évolue s'effondre. Il y a une lueur d'espoir côté espagnol, c'est pas un hasard, le gouvernement espagnol est un des seuls gouvernements progressistes aujourd'hui en Europe, et ce gouvernement a souhaité non pas réduire, ce qui est un petit peu à la mode, mais élargir, au fond, le champ de la démocratie, appliquant cela sa constitution, qui suppose, dans cette constitution, qu'il y ait une égalité des citoyens, y compris dans les lieux de production. Et donc, a demandé un rapport à une collègue de Louvain, avec laquelle on travaille ici, dans le cadre d'une chaire internationale. Cette collègue, c'est Isabelle Ferreras, qui a mis toute son énergie, et depuis très longtemps, à indiquer qu'il y a un sujet politique. L'entreprise est un espace politique. C'est l'endroit où on passe, pour la plupart d'entre nous, le temps le plus important de sa vie. C'est l'endroit aussi, au-delà du temps, où on met son activité au service de quelque chose. Ce quelque chose peut-il être complètement délié de ce que l'on croit ? Est-ce que l'on ne doit pas en avoir un avis là-dessus ? Autrement dit, est-ce qu'il est logique que l'endroit qu'on fréquente le plus pour assurer sa subsistance, ce soit un endroit où on n'a pas son mot à dire ? C'est quand même une question centrale. Et à partir du moment où on dit que l'entreprise est politique, ben, ce que propose le rapport espagnol, c'est comment est-ce qu'on s'assure qu'il y a de la démocratie, à la fois dans les décisions stratégiques, c'est ça les deux promesses, hein, à la fois dans les décisions stratégiques, comment les salariés participent au conseil d'administration, et puis comment ils participent également à la propriété, deuxième promesse.
Alors, pourquoi on va dire que cette initiative démarre de l'Espagne, alors que en Haute-France, notamment en Nord-Pas-de-Calais autrefois, c'était une grande terre de travail, avec aussi des grandes forces militantes. On aurait pu aussi être un foyer d'émergence de ces idées.
Alors, l'émergence des idées et le rapport, c'est deux choses un peu différentes. Il y a effectivement, depuis très longtemps, des revendications diverses de pouvoir et d'augmenter le pouvoir des salariés au sein de l'entreprise. Ça a été, par exemple, longtemps, au-delà des Hauts-de-France, un sujet central pour la CFDT, qui a été longtemps un syndicat autogestionnaire jusqu'en les années 80, et qui défendait donc cette idée de porter le fer contre, disons, la domination unique du capital dans les entreprises. Ça peut prendre d'autres formes. Hein. Le mouvement syndical, il a aussi existé en réclamant des contreparties, au fond, à la situation de difficulté au travail, à travers des augmentations de salaire, à travers des statuts protégés par rapport à ce qui est le contrat classique commercial, donc le droit du travail, le contrat dur indéterminé, etc. Il n'y a pas eu dans les Hauts-de-France une tradition particulièrement remarquable de demande de démocratie qui singulariserait les Hauts-de-France. Il y a en Hauts-de-France un très fort mouvement démocratique à travers l'économie sociale et solidaire qui est très présente, qui est depuis très longtemps exerce, pratique, fait la démonstration, je dirais par l'exemple, que ça fonctionne, hein, mais qui pour autant n'est pas devenu majoritaire, pas plus dans les Hauts-de-France qu'ailleurs. Et puis il y a une autre tradition qui par contre est propre aux Hauts-de-France, c'est le paternalisme. C'est-à-dire que la manière dont les Hauts-de-France, de fait, ont rencontré cette question, ça a été en apaisant les tensions sociales à travers un patronat souvent catholique, qui, l'Institut catholique de Lille en étant, je dirais, une des conséquences, en étant attentif, au fond, à cette question sociale, mais en la traitant de manière infantilisante, puisque le paternalisme a comme caractéristique de considérer que, eh ben, il faut que le patron s'occupe de ses salariés comme s'il n'avait pas d'autonomie. C'est une forme de capitalisme qui est sans doute moins violente que l'autre. C'est une forme de capitalisme qui n'est pas du tout démocratique, puisque au contraire, dans le paternalisme, précisément, c'est le patron qui décide de ce qu'il y a de bien pour le salarié, non seulement quand il travaille, mais aussi quand il ne travaille pas.
Alors c'est vrai que le monde du travail, enfin je parle des travailleurs, est maintenant presque en parité composé de travailleuses. Ça a changé la donne dans les années 45-50.
Ah oui, bien sûr. L'évolution, ça a changé la donne pendant tout le XXe siècle. Ça continue à changer. L'émancipation féminine, qui est à la fois une cause et une conséquence de la participation accrue des femmes au travail, a considérablement changé la donne. Quant à savoir si elle a changé la donne sur le plan des droits et devoirs des salariés au sein d'entreprises, ça c'est un sujet un petit peu plus pointu, mais peut-être que vous avez une idée à me soumettre là-dessus.
Ben ouais, peut-être qu'on pourrait parler de la responsabilité sociétale des entreprises, qui est un phénomène qui est apparu combien, il y a 20 ans ?
Ouais, il y a une la responsabilité sociale d'entreprise, c'est quelque chose qui est contemporain du néolibéralisme, si on veut le dire en deux mots, hein, après l'effondrement, car on en a déjà connu, après l'effondrement des années 30 des démocraties européennes, et puis la manière dont elles se sont abîmées à tout point de vue, d'abord démocratique, et puis ensuite, bien sûr, plus concrètement à travers la vie et la disparition de la vie inhérente à la Seconde Guerre mondiale. Cet effondrement démocratique après-guerre, il a donné lieu à une prise de conscience et on a réencastré le capitalisme, mais sur la base non pas de la démocratie d'entreprise, mais plutôt d'un État-nation qui prend à sa charge la question sociale et qui, par-dessus les entreprises, parce qu'il avait il s'était organisé pour avoir la main sur les financements, par-dessus les entreprises, impose au fond toute une série de protections des salariés, crée une espèce de deal avec le patronat en disant « on ne sort pas du capitalisme hein. ». De Gaulle n'est pas sorti du capitalisme, enfin, bien sûr, dans cette période qui n'était pas spécialement dominée politiquement par la gauche, on crée un statut. Bon. Ça n'a pas donné de droit aux salariés dans l'entreprise, ça en a donné en dehors de l'entreprise. Et ça s'est entré en crise dans les années 70-80 avec le néolibéralisme qui se caractérise par la financiarisation, en gros la prise de contrôle par les marchés financiers. Bon, je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, on voit à peu près ce dont il est question quand on dit ce sont les marchés financiers qui décident de l'alpha et l'oméga de nos vies, de la ligne du gouvernement, mais aussi des grands choix des multinationales. Cette reprise en main de la finance par les marchés, elle a cassé la mécanique qui avait été mise en place après la Seconde Guerre mondiale, et un petit peu en échange, elle a ouvert un sujet autour de dire oui, mais dans l'entreprise, on pourrait peut-être être plus responsable socialement, écologiquement, et évidemment, ça s'est très fortement développé. Le problème, c'est que ça s'est très fortement développé, souvent de manière faciale. Le bilan de la RSE n'est pas bon, il est même extrêmement mauvais, à la fois sur le plan social et sur le plan environnemental. Nos sociétés vont dans le mur écologique, et elles vont très mal socialement, l'effondrement démocratique, la montée de l'extrême droite, en étant un signe patent. Et donc cette RSE, pourquoi, d'une certaine manière, elle n'a pas marché? Ben parce qu'on en est resté au slogan. C'est quoi une entreprise qui devient responsable sur le plan social et écologique? Eh bien, c'est une entreprise qui assume d'avoir une activité politique au sens large, c'est-à-dire d'avoir une activité qui doit être discutée avec ceux qui bénéficient ou qui subissent les productions de l'entreprise, on pourrait dire les parties prenantes, les clients, les riverains, et puis avec ceux, bien sûr, en premier chef, qui rapportent toute une partie de leur vie à l'entreprise, et qui, bien sûr, doivent avoir leur droit à dire sur comment on fait, qu'est-ce qu'on fait. Bon, ce moment-là n'a jamais eu lieu. Donc la RSE, ben, elle a tourné court, ou plus exactement, si elle doit exister, c'est que c'est devant nous, à condition qu'on ouvre des plages de négociations internes dans les entreprises. Alors vous disiez tout à l'heure, ouais, c'est un peu un drôle de sujet, un peu utopique. Ça montre bien que le point de départ, c'est qu'on en est tellement loin que déjà l'idée que lorsqu'on entre dans l'entreprise, là où on passe plus le temps de notre vie, je le redis, eh ben on n'a pas son mot à dire, c'est complètement acté. L'entreprise, c'est pas un lieu politique. Alors qu'on voit bien à quel point elle est totalement politique. Lorsque Total décide de réouvrir des gisements de pétrole, c'est politique. Lorsque telle ou telle entreprise décide de faire un plan social, c'est politique.
C'est peut-être aussi du fait que nous, en France, quand on dit politique, c'est souvent politique locale, nationale, électorale, etc. On ne pense pas plus haut.
Oui, on pense que la politique, c'est seulement quand on vote. Alors que la politique, c'est la vie ensemble, c'est la vie collective, et d'une certaine manière, l'extension du domaine politique, il est très large. Bon, et une fois qu'on comprend ça, évidemment, ça paraît inévitable de se dire, bah, ce qui est le plus déterminant dans toute ma vie, et où je me lève le matin, je vais travailler, c'est quand même incroyable qu'on m'ait jamais demandé, et même pas eu l'idée de me demander, ce que j'en pensais. Quelles décisions doivent être prises? Que doit-on produire? Est-ce que je suis content le matin quand je me lève et que je vais travailler? Même si je trouve que mes conditions de travail sont bonnes, imaginons et rêvons un peu, même si je considère que mes salaires sont corrects, est-ce que j'ai pas un petit peu à me soucier de ce qui est produit? Par exemple, si je travaille dans une entreprise de 1000 antipersonnels en étant bien payé, et en ayant de bonnes conditions de travail, est-ce que ça ne m'atteint pas sur le plan de mon avis politique sur cette question? Faut-il ou pas produire des mines antipersonnelles? Je prends cet exemple, bien sûr, pour me faire comprendre, mais l'extension est beaucoup plus large. Si je produis, par exemple, si je bosse, par exemple, dans une entreprise du secteur pétrolier et que je considère qu'il faudrait moins consommer de pétrole, est-ce que ça ne me pose pas des questions? Alors, cette tension, elle est en chacun d'entre nous. Et elle ne trouve aucune forme d'échappatoire parce qu'on ne nous demande pas ce qu'on pense de la manière dont on produit et non plus de ce que l'on produit.
En même temps, l'idée du travailleur à l'international n'est pas nouvelle. Mais le cloisonnement géographique ou des pays, des systèmes, fait qu'à la base, l'ouvrier ou le travailleur est pris dans sa condition locale et ses possibilités de s'en sortir locale et pas internationale. Il n'y a pas encore, sauf à la marge, ces mouvements qui sont facteurs de révolution d'une certaine manière dans les entreprises. On ne le ressent pas.
Alors, une première remarque peut-être, d'une certaine manière, l'international ouvrier, ça s'adapte pour le coup, puisque c'est bien sûr au cœur de la mise en œuvre de la critique qu'on pourrait dire marxiste, puis communiste, par la création de l'internationale ouvrière. Bon, qui a eu des effets très profonds, et pas seulement des effets d'ailleurs dévoyés en Union soviétique, il y a eu des effets globaux sur l'amélioration du sort des salariés, sur la base du fait qu'on est ouvrier. Bon, vous avez raison de signaler qu'on est aussi, on travaille quelque part, et ça a été traité. C'est-à-dire la question de savoir dans quel pays on travaille, qui a donné lieu à des droits différenciés. Et c'est même là que ça s'est le plus joué. un peu moins dans les régions, plutôt dans l'État-nation, en tout cas en France, c'est notre référent. Donc on est d'abord citoyen, et puis ça crée des droits pour les ouvriers français. Faudrait d'ailleurs, bien sûr, si on ouvrait très grand les yeux, s'apercevoir que les choses gagnées par les ouvriers, les salariés français, pendant les années 50, 60, 70, l'ont été très largement, et sans que ce soit de la faute des ouvriers français, bien sûr, au détriment des ouvriers du monde entier. Hein, puisque si nous avons eu redistribution des gains de productivité, c'est assez largement parce que on pratiquait sans vergogne le vol ou l'extractivisme de ressources naturelles partout dans le monde. Donc évidemment, vous avez raison de dire, l'internationalisme, là, il a un sujet. Bon. Le point qu'on porte ici, c'est que cet État-nation, il s'est un peu délité parce que la mondialisation fait que les capacités de régulation nationale sont plus faibles qu'avant. Et donc, ce qui doit nous réunir aussi, c'est que nous sommes dans des entreprises, quelquefois extrêmement locales, mais très souvent des entreprises qui ont un peu des réseaux multinationaux, et que c'est une autre manière de peser. Or, sur ce plan, dans le monde des idées, il est très difficile de contrecarrer le principe simple démocratique. Il n'est pas difficile de le contrecarrer en pratique par des coups de force. Et vous savez bien que tout le monde se dit toujours démocratique. Bon. Il y a donc un enjeu d'indiquer, eh bien, si vous êtes démocratique, si on considère que notre manière de vivre ensemble, c'est droits et devoirs mutuels, alors il faut absolument ouvrir cette question démocratique dans les multinationales quand on voit leur pouvoir, comment elles pèsent sur nos vies. Or, ce sujet-là, jusqu'à présent, il n'a pas été très porté politiquement, y compris par la gauche, qui, en France, a longtemps dit, c'est porté par l'État. Contre les entreprises.
Donc, effectivement, sur les multinationales, c'est compliqué, mais pour certaines entreprises locales, alors soit elles peuvent être privatisées, soit elles peuvent être coopérativées, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais on peut imaginer des formes de gouvernance différentes qui existent déjà.
Ouais.
Est-ce qu'elles se développent ou pas? Est-ce qu'on favorise ce développement? Ouais. Ça, c'est de la politique.
Ça, c'est de la pure politique, et c'est exactement l'objet du rapport espagnol et de la volonté qui est portée par l'équipe, entre autres l'équipe ici à Lille, d'en faire un sujet européen et donc français. Autrement dit, il n'y a aucune raison pour que ce rapport espagnol ne s'adresse qu'à la cause espagnole. Bon. Pourquoi ? Par exemple, prenez un très bon exemple. Dans le secteur dit privé, donc je sors du secteur public, par exemple celui de l'université, dans le secteur privé, il y a des entreprises qui sont coopératives. Elles sont privées coopératives. Ça veut dire qu'elles pratiquent, en règle générale, des formes d'égalité dans les droits et devoirs de ce qu'apporte le capital, ce qu'apporte le travail. Quelquefois, elles intègrent ces coopératives de consommateurs, elles intègrent donc les parties prenantes. Est-ce qu'elles sont vertueuses en matière écologique et sociale? Tout montre à penser, tout prouve, d'une certaine manière, qu'elles le sont. Qu'elles ont des résultats, un impact, pourrait-on dire, écologique et social, plus important que des multinationales qui viennent se servir, repartent. Bon. Or, sont-elles plus aidées politiquement? Est-ce qu'elles ont un cadre légal favorable? Est-ce qu'elles ont une partie plus importante des fameux 220 milliards d'euros, je redonne quand même le chiffre, 220 milliards d'euros qui sont versés chaque année en aide aux entreprises? Eh bien, la réponse est non. Elles en touchent proportionnellement moins. Non seulement elles ne sont pas aidées, mais elles sont même défavorisées. Ça, vous m'avouerez que quand il y a sur le terrain des entreprises qui prennent une forme coopérative, qui prennent à bras-le-corps ces questions qui sont celles de nos vies, il y a quand même un sujet politique de se demander s'il ne faudrait pas faire au moins un peu plus que moins pour les aider.
Alors, une autre question aussi, ça touche certains pays qui ont décrété que la référence, c'était le niveau de bonheur des gens qui y vivent, mais pourquoi pas qui travaillent aussi. Bien Est-ce sûr. Que c'est pris en compte?
Ceux qui vivent, en général, travaillent. Hein. L'inverse, malheureusement, on n'a pas encore trouvé, c'est-à-dire travailler...
Les rentiers.
Vivre sans travailler. Oui. Les pays qui pratiquent le bonheur national brut, comme le Bhoutan, c'est pas autour des rentiers, en fait. Hein. Quant au bonheur des rentiers, c'est un sujet qui me préoccupe pas de manière majoritaire. Donc, la question qui est centrale, vous avez raison, c'est par exemple se demander, c'est quoi les bons indicateurs? Alors, quand vous dites le bonheur, on se dit, ok, ça va être bien compliqué cette question. En tout cas, c'est pas vous qui allez me dire ce qu'est le bonheur et pas moi qui vais vous le dire. Va donc falloir qu'on discute, qu'on débatte et qu'on établisse deux, trois éléments sur lesquels on se met d'accord. Bon. Ça, est-ce que ça existe? Non. Par contre, on nous dit ce que c'est le bonheur, on l'appelle pas tout à fait bonheur, on l'appelle PIB. On nous dit ce qu'il y a de bien, c'est la croissance. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on croisse. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on soit plus compétitif. Et j'espère, comme moi, que vous avez été très ému de savoir que cette année encore, nous avons percé les plafonds de versement des dividendes, comme l'an dernier, comme l'année d'avant. Mais tout va bien. Il y a de la croissance, on augmente les dividendes versés, et vous n'êtes pas heureux. Bah donc, il y a un sujet, c'est qu'il faudrait se demander, effectivement, est-ce que le PIB, c'est le bon indicateur? Je pense que plus personne de sérieux ne le croit, mais ça continue à être l'unique indicateur politique. Et est-ce que, par exemple, l'efficacité, c'est le versement des dividendes aux entreprises?
Est-ce qu'on pourrait pas avoir aussi comme indicateur peut-être inverse le taux de dépression, le taux d'absentéisme, les maladies?
Alors, ce sont des éléments, bien sûr, qu'il faut absolument prendre en compte, qui le sont un peu, mais pas suffisamment instrumentés. Hein, on a plutôt tendance à les minorer, on ne leur donne pas une place assez importante. D'accord? Mais plus généralement, on sait, par des études économiques, sociologiques, de politistes, de sciences sociales, eh bien que plus les gens sont heureux au travail, autrement dit, plus ils s'y épanouissent, au-delà de leur salaire. C'est-à-dire lorsque leur contenu fait sens, et que quand ils se lèvent le matin et qu'ils reviennent le soir, ils considèrent que non seulement, bon, comme tout le monde, ils ont fait ce qu'il faut pour gagner de quoi vivre, mais en plus, le contenu, ça, ils trouvent que ça a du sens. Ben, ces salariés-là votent de manière massive, beaucoup moins à l'extrême droite que la moyenne de la population. C'est-à-dire, en prenant du sens dans le travail, et donc, on ne prend pas seulement le côté négatif, c'est pas qu'ils ne dépriment pas, on peut quand même exiger autre chose, c'est pas qu'ils se tuent pas au travail. En exigence plus forte, c'est qu'en plus ils soient contents d'aller travailler parce que ça fait sens. Ben, lorsque les salariés sont contents d'aller travailler parce que ça fait sens, ça se traduit par un vivre ensemble beaucoup plus apaisé de manière générale. Or, cette question, elle est directement liée à la parole des salariés sur leur travail. Est-ce qu'on les entend? Est-ce qu'on les écoute? Comment voulez-vous que notre travail fasse sens si on ne nous a jamais demandé non seulement notre avis sur le travail, mais on ne nous demande jamais, en plus, comment on devrait s'organiser, et encore moins, quelle devrait être la finalité de la production. Donc, il y a un impensable, on nous bombarde toute la journée. Toute la journée. C'est de notre faute. On n'est pas assez écolo. On prend des voitures diesel. On trie pas nos déchets. On mange trop. Et en plus, les Français sont racistes. Ils votent à l'extrême droite. Donc c'est des fachos. Bon. Sans se poser les questions structurelles, est-ce que l'être humain a changé ces 20 dernières années? Ou est-ce que ce ne serait pas la structure, le système, qui apporte du désespoir, qui prend très largement des formes évidemment délétères de fascisme, comme on le voit aux États-Unis, et comme on le voit sous des formes différentes dans d'autres pays d'Europe, et comme il semblerait que ce soit un risque pour notre pays. Bon, ben face à ça, c'est la question, c'est évidemment, il se passe quelque chose dans le travail qu'il faut aller regarder.
Alors, écouter les salariés, les travailleurs, ça pourrait être l'idée déjà d'une action concrète. Pour l'instant, on a l'impression qu'il y a l'interface entre les salariés et le patronat, ce sont les syndicats. Oui. Si on donne la parole aux travailleurs, est-ce que c'est pas court-circuiter les syndicats ou est-ce qu'ils risqueraient ces syndicats de le prendre mal?
C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Évidemment, dit comme ça, c'est-à-dire une organisation, un État, une organisation politique qui dit moi je donne la parole aux salariés sans passer par les représentants légitimes existent qui sont pour le coup démocratiques. Les syndicats font l'objet d'élections. Tout leur fonctionnement est démocratique. Le patron n'est pas élu. Par contre, Marlise Léon, Sophie Binet, ils ont été élus. Hein. Bon. Donc, ils ont une légitimité très importante. Et donc, il faut bien sûr faire avec les représentants syndicaux qui sont prêts. À Lille, nous avions l'ensemble des syndicats qui étaient représentés et qui tous, dans leur feuille de route, ont cette question du sens du travail, de la démocratisation, de la représentation des salariés au conseil d'administration. Donc, ils sont totalement moteurs. Sauf qu'ils ont du mal à trouver l'oreille de mesures politiques extrêmement simples, consistant à la fois sur le plan fiscal et sur le plan de la loi législative, de pousser à la démocratisation des espaces de production.
Alors, si on veut aujourd'hui faire une pause sur notre conversation et la reprendre plus tard dans un an ou deux,
ouais.
Est-ce que vous imaginez des changements possibles et notamment aussi peut-être les opportunités politiques, quand je dis ça, il peut y avoir du mouvement aussi,
oui.
Qui rendrait les choses possibles ou encore oui. moins possibles.
Alors, je passerai pas beaucoup de temps à m'intéresser à ça si je pensais que c'est impossible. Je pense que, sur le papier, c'est tout à fait possible. Et on peut considérer même que c'est petit pied, que c'est un peu mou, que c'est un peu social-démocrate. Parce qu'effectivement, il s'agit même pas de renverser le capitalisme. Il s'agit de dire, il faut... augmenter la capacité des salariés à se faire entendre dans l'entreprise, rendre les entreprises démocratiques, remettre le capital à sa place, qui n'est pas tout, même si il peut être un peu. Donc cette position politique, c'est une politique extrêmement pragmatique. Elle est d'ailleurs au cœur de la plus grande part des programmes. Elle était dans le programme du Nouveau Front Populaire, elle est dans les programmes de gauche, mais souvent elle est un peu tuée, elle est un peu basse, elle n'est pas mise en avant. Elle existe en Allemagne, où il y a la co-détermination. Donc vous me disiez, si on se revoit dans 2-3 ans, est-ce que ça aura changé? Mais je peux vous dire, écoutez, on va ensemble prendre la voiture, puis on va aller en Allemagne, qui est quand même pas un pays qui me semble être sorti du capitalisme, où il y a la co-détermination. On va monter vers le nord, vers la Suède, vers le Danemark, vers la Norvège, où il y a une représentation beaucoup plus forte des salariés. Donc en fait, il suffirait déjà... Tout simplement, puisqu'on nous bassine avec l'harmonie et la mise en œuvre de formes d'homogénéisation de l'espace européen, qu'on dise, effectivement, allons-y, quoi, faisons déjà la même chose que l'Allemagne. Et pour ça, il suffit d'une certaine manière d'une volonté politique, et bien sûr que les forces politiques sur ce programme se fassent élire. Elles le feront parce que nous allons voter, bien sûr, mais elles le feront aussi. Parce qu'il y aura des mobilisations sur ce sujet, c'est vrai, vous avez raison, tout ne se passe pas par le bulletin de vote, ça suppose aussi que ce soit porté, comme ça commence à l'être, par les forces syndicales, par le mouvement social, et qu'on ne soit pas seulement sur un mouvement social qui s'adresse à l'État pour que l'État donne davantage, pour que l'État protège davantage, c'est tout à fait légitime, mais aussi pour que l'État, d'une certaine manière, tordre le bras, non pas des entreprises, qui pour la plupart sont tout à fait prêtes à cette ouverture aux salariés, mais aux rentiers, aux détenteurs de capitaux, aux actionnaires, pour les remettre à leur place, c'est-à-dire à une place dans laquelle ils cessent de nous étouffer.
Voilà, eh bien, peut-être qu'on peut dire en conclusion que l'Espagne allumait une lumière.
Exactement.
Et qu'on pourrait la reprendre dans d'autres pays.
Absolument.
Merci beaucoup, Nicolas Postel.
Merci à vous.
Un ouvrage peut-être à nous conseiller avant de partir?
Oui, vous pouvez aller déjà sur un site internet qui est celui de la chaire Socio-économie des communs. Vous trouverez chaire sec. Hein, vous trouverez tout sur entreprise et démocratie, les fameuses 2 journées qui se sont passées à Lille, hein, où on a été 300 pendant 2 jours avec des représentations politiques, syndicales et des chercheurs. Débat extrêmement riche. Il y a des vidéos. Il y a toute une série de choses à voir. Et comme livre, eh bien, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de lire le Manifeste Travail, écrit par Dominique Méda, Isabelle Ferrara, Julie Batilana, et qui porte bien son nom, c'est-à-dire ça s'adresse, c'est pas un ouvrage de recherche, hein, ça s'adresse d'abord, dans ce Manifeste Travail, à tous ceux et celles qui se disent, notre société repose sur notre travail, et donc cela doit nous donner des droits et de l'espoir.
Thank you. m'en meurs.